On remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être dans ces assises. On cherche ces assises-là et on voit, alhamdulillah, que les gens cherchent ces assises de science et qui ont une grande valeur. Et je vous annonce la bonne nouvelle, que, de la nouvelle du prophète alayhi salatu wassalam, que ce genre d'assises où on s'enseigne le livre d'Allah, les anges descendent et nous couvrent de leurs ailes, et la sakina, la sérénité descend, et Allah ta'ala nous évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui. Donc, l'important, barakallahu fikum, dans ces assises-là, c'est de corriger notre intention et d'avoir une intention sincère. Car une action ne peut être correcte et acceptée et correcte auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que ce soit dans l'acceptation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou dans le fait qu'elle soit valide, qu'avec des intentions sincères. Si on sait que donc l'acceptation des actes n'est liée qu'à la sincérité, alors on s'assoit sincèrement pour apprendre et accepter la vérité, car Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens des versets, ceux qui écoutent les paroles et qui en suivent le meilleur. Donc, quand on écoute la vérité est une chose qui est basée, des paroles qui sont basées sur des preuves et qui sont, alhamdulillah, proches de la vérité, alors on doit l'accepter et on met l'intention ferme que si on entend des paroles justes et qu'on les suive, qu'on mette l'intention de les suivre et de les mettre en pratique. Car la science sans agir, c'est un malheur, et l'action sans science, c'est aussi un malheur et une perte. Nous devons tous savoir que nous sommes tous voués à revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala et que tout être vivant est amené à mourir. Mais l'être humain n'est pas un être vivant comme les autres êtres vivants. Car quand il va mourir, il va rendre des comptes. Et dès qu'il passe dans sa tombe, les questions commencent sur la connaissance de son Seigneur, de sa religion, de son messager et de sa religion. Donc la personne doit justement savoir qui est son Seigneur, et voilà sur quoi il sera questionné le jour du jugement dernier. Et on sait que la personne, que l'être humain sera questionné, on sait que l'être humain sera questionné sur ses actes, sur ce sur quoi il a agi. Et parmi ses actes, c'est ce qu'il a acquis et ce qu'il a œuvré. Et la personne sera questionnée parmi aussi ce qu'il a fait de licite et d'illicite. Et les actes licites et illicites, ce sont des choses qui sont déterminées seulement par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager. Ou les choses licites et illicites, c'est Allah et son messager qui les déterminent seuls. Il n'est permis à personne de déterminer qu'une chose elle est licite ou elle est illicite sans que ce soit déterminé auparavant par Allah subhanahu wa ta'ala ou par son messager sallallahu alayhi wa sallam ou par une preuve du Coran et de la Sunna. De même, on n'a pas le droit de dire qu'une chose est obligatoire, ou une chose est recommandée, ou interdite, etc., sans une preuve du Coran et de la Sunna authentique. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, et ne dites pas avec vos langues le mensonge, ceci est licite, et ceci est illicite, vous inventez sur Allah des mensonges. Voilà ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets. Sans aucun doute, Allah tabaraka wa ta'ala a créé certaines choses qui sont licites et d'autres qui sont illicites. Certains pourront demander pourquoi Allah a créé des choses alors qu'elles sont, il nous les a interdites. Et Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé justement les prophètes, alayhim salatu wassalam, pour expliquer aux gens le licite et le licite, le bien et le mal. Et ceci est connu par tout le monde. Même dans les autres religions, même chez les juifs et chez les chrétiens, il y a des choses licites, il y a des choses illicite. Donc, si on se demande, si certains pourraient se demander pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a créé certaines boissons, certaines nourritures, alors qu'elles sont illicites, il nous les a rendues illicites, alors il faut savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, ne connaît-il pas ses créatures, ce qu'il a créé, alors que c'est lui, al-latif al-khabir. C'est lui qui connaît les choses minimes et le bien connaisseur, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, s'il a interdit une chose, c'est qu'elle est mauvaise pour l'homme. Et il a créé certaines choses, comme par exemple le serpent ou le scorpion, qui sont interdites à manger. Mais pourtant, leur présence est une sagesse, est un bien pour l'homme. Le cheikh a dit qu'ils peuvent assimiler par exemple certains gaz qui sont nocifs à l'homme, mais pourtant c'est interdit de le manger. Donc c'est un bien pour l'homme, mais Allah nous a interdit de les manger. Aujourd'hui, on peut découvrir avec la science certaines sagesses qu'il y a dans les ordres ou dans les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les compagnons n'avaient pas ces sciences-là, mais ils se sont soumis. Nous aussi, on doit se soumettre à l'ordre d'Allah quand il nous interdit une chose. Mais cette science peut nous aider, après s'être soumis à l'ordre d'Allah, au licite et à l'illicite, à en comprendre certaines sagesses et à voir comment Allah tabaraka wa ta'ala fait toutes choses avec sagesse. Donc il a établi certaines adorations avec sagesse, comme la zakat, comme etc. Ce n'est pas sans sagesse. De même, il a interdit ce qui est mauvais pour l'homme et il lui a autorisé ce qui était bon pour lui. Le chef a dit, j'ai lu dernièrement que l'OMS a conseillé, l'OMS c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils ont conseillé de manger peu les nuits du 13, 14 et 15 lunaires, ce qui correspond aux jours des jeûnes, les trois jours de jeûne blanc. Ils ont dit que c'est à ces moments-là, la lune attire moins, c'est-à-dire son magnétisme. Comme vous connaissez les marées, etc., c'est lié à la lune. Les liquides et les toxines. Donc, le fait de manger moins, c'est une bonne chose pour la santé de l'être humain. Bien sûr, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont soumis au sunnah. Ils les ont pratiqués sans connaître tout cela. Et nous aussi, on doit faire cela. Mais cette science-là nous aide à, après s'être soumis, à en comprendre certaines sagesses et savoir qu'il n'y a pas une chose qui est légiférée en islam sans qu'il y ait un bien. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, on va leur montrer nos signes dans la création et en eux-mêmes. Donc ça fait partie des signes qui peuvent justement montrer les bienfaits, encore plus ancrer la certitude dans le cœur de l'être humain, que Allah ta'ala n'a pas interdit une chose sans qu'il y ait un mal dedans, il ne l'a pas ordonné sans qu'il y ait un bien dedans. Le licite et l'illicite, c'est depuis la création de notre père Adam, alayhi salatu wassalam, déjà que l'être humain est lié au licite et à l'illicite. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a créé Adam, il lui a dit, entre au paradis, toi et ton épouse, wa kula minha raghadan haythu shi'tuma. Et mangez-y tant que vous voulez, wa la taqrabu hadhihi shajara. Et n'approchez pas cet arbre. Donc, depuis déjà Adam, alayhi salatu wassalam, on voit que le halal était plus nombreux que le haram. Il lui a dit, mangez de ce que vous voulez, sauf de cet arbre. Donc, de même, l'être humain, aujourd'hui, Allah tabaraka wa ta'ala nous a rendu le champ du licite et du halal beaucoup plus grand que le champ de l'illicite et du haram. On sait tous qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous récompenser ou nous châtier selon nos choix et nos actes. Et si la personne suit l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors aucune de ces récompenses ne sera pas lésée et il aura sa récompense entière. Alors que ceux qui ne suivent pas, ils auront quoi? Un châtiment. Et on sait aussi qu'il y a des personnes qui ne s'attachent à aucune religion, qui ne croient en rien, ou certaines autres qui s'attachent à des religions autres que l'islam. Et même dans les musulmans, il y en a qui sont, alhamdulillah, attachés à la religion pure, celle qui est selon le Coran et la Sunna authentique, et d'autres qui ont suivi les innovations et la désobéissance. Donc, la personne, quand elle suit, alhamdulillah, la religion pure avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il sera récompensé, et s'il ne suit pas cela, il sera châtié. De même, dans les choses licites et illicites. On sait tous et on croit que Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a créé l'être vivant, il lui a octroyé et écrit sa subsistance. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, il n'y a pas un être vivant sans que sa subsistance n'incombe à Allah, dans le sens des versets. Et cette chose-là, que ce soit un croyant, un mécréant, un musulman, un pervers, quelqu'un dans la sunna, qui que ce soit, Allah ta'ala, il l'a créé, il lui octroie sa subsistance. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, si la personne voulait s'enfuir de sa subsistance comme on s'enfuit de la mort, sa subsistance le rattraperait. Donc, ça ne veut pas dire, nous on croit en cela, et on a la certitude sur cela. Ça ne veut pas dire par là qu'on délaisse les causes. Parmi le moyen, alhamdulillah, d'avoir justement cette subsistance dans le licite, c'est de faire les causes licites. c'est de faire les causes licites. Et c'est un moyen d'obéissance à Allah, tabarak wa ta'ala, de faire les causes licites pour atteindre la subsistance licite. Et non pas délaisser les causes. Et dire que ça, ça fait partie du tawakkul, de mettre sa confiance en Allah. Comme certains soufis ont compris que le tawakkul, c'est de rester chez soi ou de rester dans la mosquée les mains attachées et de ne pas aller travailler. Ils interdisent même. Ils disent « Allez faire les causes pour avoir la subsistance, c'est interdit. » C'est contradictoire à mettre sa confiance en Allah, tabarak wa ta'ala. Et ils ont mal compris la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, qui dit « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Celui qui s'en remet à Allah, certes Allah lui suffit. Car التوكل, ça ne veut pas dire cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans le hadith authentique. Et même ce hadith, ils l'ont mal compris. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens des paroles, si seulement vous vous en remettiez à Allah comme il convient de s'en remettre à lui, il vous aurait donné votre subsistance comme il la donne aux oiseaux qui sortent le matin le ventre creux et qui reviennent le soir le ventre plein. Donc eux, ils n'ont pas compris ce hadith, pour eux il faut rester, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait qu'ils sortent. Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé de sortir pour demander la subsistance, même après les prières en général. Et après la prière la plus importante pour laquelle on se prépare, pour laquelle il a été légiféré de venir tôt, pour laquelle il a été légiféré de faire les grandes ablutions, qui est la prière du Jumu'ah, du vendredi. Et il a dit pour cela que quand la prière est finie, alors éparpillez-vous sur terre et espérez chercher de quoi ? Du bienfait d'Allah. Du bienfait d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et évoquez beaucoup Allah, tabarak wa ta'ala, certainement vous réussirez. Donc Allah, tabarak wa ta'ala, nous a enjoint à chercher ce rizq halal, même après la prière du vendredi. Et en vérité, en islam, il n'y a pas spécialement un jour de repos. On peut aller travailler tous les jours, sauf un jour qu'on a choisi pour soi-même, pour se reposer. Mais il n'y a pas un jour légiférer spécifiquement pour ne pas travailler. Car même le Jumu'ah, qui est le jour où on se prépare pour la prière, Allah Ta'ala nous dit, après la prière, qu'on peut aller chercher le rizq, qu'on peut aller chercher la subsistance licite. Et Allah Tabaraka Ta'ala dit, et évoquer beaucoup Allah Tabaraka Ta'ala. Évoquer Allah avec la langue, et évoquer Allah en cherchant le rizq d'une manière halal, la subsistance d'une manière halal. Donc quand on cherche la subsistance d'une manière halal, c'est aussi la manière d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, de se rappeler de ses ordres et de les mettre en pratique. Allah tabaraka wa ta'ala dit aux croyants, dans le sens des versets, « Ô vous qui avez cru, mangez de ce qu'il y a sur la terre comme chose licite et bonne. » Et Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant spécifiquement, ça c'était pour aux croyants, يا أيها الذين آمنوا
اذكروا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم
أو vous qui avez cru mangez des bonnes choses dont on vous a octroyé. Donc Allah Ta'ala a ordonné les gens en général de chercher le rizq, la subsistance halal, et de ne pas suivre les pas de Shaytan. Et il a enjoint les croyants spécifiquement de chercher la nourriture et la subsistance licite et pure, et aussi d'être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala après cela, si vraiment c'est lui que nous adorons, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas laissé en vain, il nous a tout expliqué. Et il a complété sa religion et tout exposé clairement. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, en parlant des croyants, ceux qui suivent le prophète illettré الذي يؤمن بك
النبي الذي يؤمن بكتابه
le prophète illettré qu'il trouve écrit qu'il trouve énoncé dans la Torah et dans l'Évangile qu'il conseille le bien et qu'il déconseille le blâmable et qu'il leur rend licite les bonnes choses et qu'il leur rend illicite les mauvaises choses. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a donné cette qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, c'est qu'il est énoncé dans la Torah et l'Évangile. On sait que la Torah et l'Évangile ont été falsifiés. Mais malgré ça, il a dit, cheikh, j'ai trouvé chez le cheikh Taqi al-Din Hilali, rahimahullah, qu'il avait
un exemplaire de la Bible ou d'une Bible qui a plus de 100 et quelques années, falsifiée. Et il lui disait, lis ici, à Cheikh Rasulullah, quand Cheikh il lisait, il disait, arrête-toi ici. Il dit, là, tu vois, ils sont en train de parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité, parmi les signes du prophète qu'ils attendaient, c'est qu'il va être, il va apparaître dans un endroit entre les montagnes, et qu'il va faire légir dans un endroit où il y a des rochers noirs et des dattes et des dattiers. Donc il dit, malgré que ça a été falsifié, il y a encore dedans des signes, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est-à-dire en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont ils trouveront c'est-à-dire ces traces écrites dans la Torah et l'Évangile. Et de même, dans les livres même des associateurs qui s'appellent Veda, il cite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant Mohammed, quelque chose dans ce genre, comme j'ai répété, comme j'ai entendu du cheikh. Donc, il n'est pas permis de dire, on ne sait pas qu'est-ce qui est halal, on ne sait pas qu'est-ce qui est haram. Allah tabaraka wa ta'ala a exposé clairement cela en disant qu'en envoyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait rendu licite les choses pures et bonnes, et il a rendu illicite les choses mauvaises et impures. Donc tout ceci est clair. Si ce n'a pas été dit par textuellement, il y a au moins les règles générales qui sont dans le Coran et la Sunna qui peuvent aider à trouver cela. Nous savons tous que le fait d'avoir une subsistance licite, c'est une cause de l'acceptation des invocations. Et qu'il y a plusieurs causes qui peuvent empêcher que les invocations soient acceptées. Et manger le halal, le licite, c'est une cause qui fait que, inshallah, les du'as sont acceptés auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, Allah est bon et pur, et il n'accepte que ce qui est bon et pur. Et il a ordonné aux croyants les mêmes ordres et les mêmes choses qu'il a prescrit aux croyants, les mêmes prescriptions qu'il a prescrites à ses messagers. Dans le sens des versets, Allah Ta'ala a dit, « Oh, vous les messagers, mangez de ce qui est pur. » Et Allah Ta'ala a dit aussi aux croyants, « Oh, vous qui avez cru, mangez, « Ya ayyuhal ladhina amanu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. » Oh, vous qui avez cru, mangez de ce qu'il y a sur la terre comme chose licite et pure. » Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a cité la personne qui fait un long voyage, couvert de poussière, les cheveux en désordre, et qui lève les mains et qui demande à Allah tabaraka wa ta'ala, mais il a mangé l'illicite. Il est habillé avec l'illicite. Il a été nourri avec l'illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors comment voulez-vous que ces invocations soient acceptées? Donc, il y a d'autres causes aussi qui empêchent que les invocations soient acceptées. Et tous les jours, nous disons dans la salat, guide-nous sur le chemin droit. Ihdinas sirata al-mustaqim. Mais nous aussi, nous mangeons l'illicite, alors cette dua, elle n'est pas acceptée. C'est pour ça que nous ne sommes pas guidés dans le chemin droit. Et c'est pour cela, peut-être les conditions aussi de la prière et la manière dont on fait la salat, elle n'est pas acceptée. Donc nous faisons cette invocation tous les jours, mais jusqu'à maintenant nous ne sommes pas guidés dans le droit chemin, car ce n'est pas accepté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a été questionné sur la meilleure subsistance, la plus pure. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure subsistance et la plus pure, c'est celle qui vient du travail des mains de la personne. C'est-à-dire ce qu'il gagne du travail de ses mains. Et Daoud alayhi sallallahu alayhi wa sallam vivait du travail de ses mains. Cela ne veut pas dire.
وداود عليه السلام كان يعمل الدرو والحديد وألان الله له الحديد فكان يضرب بالمطرقة ويعمل يمكن كسب يده.
نعم. داود عليه الصلاة والسلام était forgeron. Il faisait les armures Allah tabaraka wa ta'ala lui a rendu le fer, il lui a assoupli le fer. Non. Donc Daoud alayhi salatu wa salam, il faisait donc, il travaillait de ses mains. Cela ne veut pas dire qu'il faut absolument faire un travail fatigant, dans le sens où il faut absolument faire beaucoup d'efforts physiques. Ce n'est pas ça le sens. Pourquoi le travail de ses mains, la personne qui fait son travail lui-même, c'est un risque une subsistance encore plus pure. Car c'est une subsistance plus sûre. Car s'il a des employés, ses employés peuvent faire certaines choses illicites. Ou d'une manière faire certaines choses d'une manière illicite. Mais lui, il n'est pas là pour surveiller. Mais par contre, si lui-même il fait ses actes, il peut surveiller et faire attention que tous ses actes, sa manière de prendre son argent, elles sont 100% illicites. C'est pour cela qu'il a dit que c'est le meilleur, c'est la meilleure subsistance, celle qui fait du travail de ses mains, celle qui subvient du travail de ses mains, car il sait exactement comment il agit et comment il amène cet argent. Alors, ça ne veut pas dire par là que c'est interdit d'employer des gens ou de faire notre travail. Mais c'est clair que celui-là, c'est le plus sûr, car il sait ce qu'il a fait et d'où il vient exactement. Aussi, il n'est pas permis à quelqu'un de laisser même à ses employés de travailler comme ils veulent, d'agir, de tricher, de mentir, ou de faire d'une manière, ou d'utiliser des choses illicites pour gagner de l'argent. Aussi, quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé des meilleurs actes, il a considéré aussi cela comme les meilleurs actes. La personne, elle est récompensée selon son intention. Si la personne, elle travaille pour se préserver, préserver son honneur, et travailler dans le licite, et utiliser cet argent licite dans le bien, alors elle est récompensée pour cela. Comme la personne qui approche sa femme, il est récompensé. Comme le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, même quand la personne prend du plaisir avec sa femme, il est récompensé, il a des récompenses. Ils ont dit, comment ça au messager d'Allah? Quelqu'un il prend du plaisir, il a des récompenses. Il a dit, mais s'il avait fait ça dans l'illicite, est-ce qu'il n'aurait pas eu un péché? Ils ont dit si. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, comme il l'a fait dans l'illicite, il sera récompensé. Le cheikh a dit aussi que dans un récit véridique, les compagnons radiyallahu anhum ont vu une personne qui était sérieux et fervent dans son travail. Et ils ont dit, s'il faisait tous ses efforts sur le sentier d'Allah, il aurait une grande récompense. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire, s'il fait ça pour nourrir ses deux parents, alors il est sur le sentier d'Allah. Alors il est sur le sentier d'Allah. Donc c'est une obligation de travailler pour ses parents. Regardez cette personne qui travaille avec sérieux et ferveur dans son travail. Il fait cela pour nourrir ses parents. Alors il est considéré fils à Billah. Il est récompensé. De même, si la personne elle fait cela pour préserver son honneur, pour ne pas avoir à tendre la main, s'il fait cela pour pouvoir amasser de l'argent pour se marier et se marier dans l'intention de se préserver de l'illicite. Aussi, ou bien d'avoir des enfants et augmenter la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, si la personne, il fait cela pour nourrir ses enfants qui sont à sa charge. Alors, tout cela, c'est sur le sentier d'Allah. S'il a une autre intention qui est mauvaise, si l'intention c'est d'utiliser cet argent dans le haram, dans l'illicite, ou bien pour faire des péchés, alors, il sera récompensé aussi selon, c'est-à-dire il aura le péché selon son intention. Dans cet argent, dans cette subsistance, Allah Ta'ala il a fait qu'il y a des droits. Un droit d'Allah qui est le droit des nécessiteux et des pauvres. Allah Ta'ala a fait qu'il y a des différences entre les gens. Il a préféré certains à d'autres. Et il a élargi à certains la subsistance et il l'a resserré à d'autres. Et Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Et il a donné beaucoup et il nous a demandé peu. C'est la zakat. La zakat, c'est 2,5% de nos biens. C'est très peu par rapport à tout ce qu'il nous a donné et tout ce qu'on a. Donc Allah Ta'ala nous a donné beaucoup et nous a demandé très peu. Et cet argent dans lequel Allah Tabaraka Ta'ala elle a fait que donc c'est un droit, cet argent-là, quand la personne ne la donne pas à ceux qui la méritent, alors cet argent qu'il garde est illicite. Et il rend tout son argent illicite. De même, il faut savoir que quand on fait des dons et quand on donne l'aumône légale, alors cela ne diminue rien des richesses. Au contraire, Allah Tabaraka Ta'ala bénit les richesses. Et à part la zakat, c'est rare qu'on donne d'autres choses. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a en dehors de la zakat un droit dans l'argent. C'est-à-dire quand il y a une nécessité, un besoin, et que le gouverneur décide qu'il faut une dépense spécifique à un moment précis, ou bien des droits dans la famille, etc., alors il y a aussi un droit dans l'argent en dehors de la zakat. Mais sinon, le seul impôt qui est imposé en islam, c'est la zakat. C'est très peu, 2,5%. Et aussi, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, l'exemple de celui qui dépense sur le sentier d'Allah, c'est comme un épi, c'est comme une graine qui a donné 7 épis. Et dans chaque épi, il y a 100 graines. Et Allah, il multiplie à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préservé le droit des gens. Et il a dit qu'il n'est pas permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas licite de prendre d'argent d'un musulman sans son accord et son approbation. Et l'islam est venu préserver 5 choses essentielles, 5 points essentiels de la vie de l'homme, qui est la religion, l'âme, l'être humain, la vie humaine, la raison, les biens et la filiation et l'honneur. Donc ces 5 choses, l'islam est venu les préserver et leur donner leur importance. Donc l'argent, ça n'a pas son importance en soi, c'est pas pour l'amour de l'argent. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a donné une place importante dans la société et ce qu'on en fait dans le bien. Ce qu'on en fait dans le bien. Tellement au point où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un vient pour te prendre ton argent et que tu te défends et que tu meurs, alors tu es martyr. Comment ? Quelqu'un pourrait se dire, comment cette personne, elle se défend, elle risque sa vie juste pour l'argent. Je lui donne, j'en ai rien à faire, c'est pas grave. Non, parce que dans cela, il y a des sagesses. Si tu le laisses faire aujourd'hui sur toi, il va le faire demain sur un autre, puis après demain sur un autre, puis sur le pauvre. Et alors, c'est la société qui en pâtit. Et il y a l'insécurité qui se répand. C'est pour ça que si sur le moment, la personne se défend, même si la personne en face, elle meurt sur le moment, quand il vient lui prendre, alors il est en droit. Ou si lui-même il meurt, il sera martyr. Donc, l'argent, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné son importance quand il est bien utilisé et utilisé par les bonnes personnes et à bon escient. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et ne donnez pas et ne donnez pas aux faibles d'esprit votre argent et ne donnez pas Allah tabaraka wa ta'ala, il a interdit de donner aux faibles d'esprit votre argent, même si c'est son argent. Allah ta'ala a dit votre argent, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu sa raison, qui utilise l'argent anormalement, yuhjar alayhi, c'est-à-dire il a une tutelle. Il y a une tutelle de l'État qui s'occupe de lui pour voir comment il va. C'est eux qui décident comment il dépense son argent. Donc pour montrer que l'islam est venu préserver l'argent des musulmans. Vous avez sûrement entendu ou lu le prône du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant le pèlerinage d'adieu, où il y avait 100 000 personnes et plus qui ont entendu ce prêche. Et où le messager d'Allah, et ce jour-là qui était, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé ce jour-là, car il donnait de l'importance à cet endroit, il le considérait sacré, et il considérait aussi ce jour-là comme sacré, et le jour du sacrifice comme sacré. Donc, il leur a dit, votre sang, votre honneur et vos biens sont sacrés comme ce jour-ci, et ce pays-ci, ce lieu-ci, كَيَوْمِكُمْ هَذَا وَبَلَدِكُمْ هَذَا وَشَهْرِكُمْ هَذَا, comme ce jour-ci, ce lieu-ci et ce mois-ci, qui était le mois sacré. Donc, comme les Arabes donnaient beaucoup d'importance et de sacraliser ces choses-là, il leur a montré aussi que l'honneur, la vie et les biens d'un musulman étaient sacrés. Alors, il n'est pas permis à qui que ce soit de faire des manigances, ou de tromper, ou de faire des choses interdites, ou de cacher pour atteindre et pour prendre l'argent d'une personne dont son argent est préservé en islam. On sait très bien que prendre l'argent du musulman, ou d'une personne dont ses biens sont préservés, par la force ou par le vol, c'est interdit. Mais il y a aussi des interactions et des contrats qui sont aussi des moyens de manger l'argent des gens bilbati, en vain et dans l'illicite. Et parmi ces interactions-là et ces contrats, il y a le prêt usuraire. l'intérêt, al-riba. Vous savez très bien le danger qui est un des plus grands dangers et c'est une des manières illicites les plus grandes de prendre l'argent. Car Allah tabaraka wa ta'ala a appelé les musulmans par leur foi et il leur a dit de délaisser ce qu'il reste d'intérêt. In kuntum mu'minin, si vous êtes vraiment croyants, il les a interpellés par la foi pour leur montrer qu'un vrai croyant, il ne peut agir avec cette interaction-là, avec ce contrat-là. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Mais si vous ne le faites pas, alors annoncez, alors vous avez l'annonce d'une guerre, qu'Allah vous déclare la guerre ainsi que son messager. Alors comment quelqu'un dont Allah et son messager lui ont déclaré la guerre, quelqu'un qu'Allah lui a déclaré la guerre, comment il peut réussir? C'est sûr qu'il sera perdu et il sera délaissé. Mais s'il se repente, in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Mais si quelqu'un au moment où l'interdiction, car les Arabes auparavant, ils faisaient ces contrats et ils prêtaient et ils reprenaient plus. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a dit, donc une fois que cette nouvelle est venue et l'ordre, la nouvelle de l'interdiction leur est apparue et leur est parvenue, alors la personne qui revient, qui se repent et qui délaisse, il récupérera son capital, il ne sera ainsi ni opprimé ni opprimeur. De même, parmi les moyens illicites d'atteindre les biens, il y a la tromperie et le mensonge. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans le marché de Médine, le Médine. Et avant de dire le hadith, il a dit ceci, il y a la preuve que les gouverneurs, les dirigeants, le gouvernement a le devoir de surveiller ce qui se passe dans les marchés et dans le commerce et de punir ceux qui ne respectent pas les règles et qui trompent les gens et qui trichent et qui mentent. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé dans le marché et il a trouvé une personne qui vendait de l'orge. Quand il a vu l'orge, le dessus était sec et le dessus était sec. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main à l'intérieur et il a trouvé que c'était humide car il avait plu auparavant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que ceci? Il a dit, il a plu au messager d'Allah. Il a dit, pourquoi tu n'as pas mis l'orge humide au-dessus et l'orge sèche en dessous? Il lui a dit, celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Et c'est-à-dire, il n'est pas sur notre chemin. Et les savants ont dit que quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de quelqu'un, cela prouve que c'est un grand péché. Quand Allah tabaraka wa ta'ala ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de quelqu'un, ou il dit anabari'un minhu, je ne suis pas avec, je me désavoue de lui, ou bien il n'est pas des nôtres, ceci est une preuve que c'est un grand péché. Il y a une règle générale en islam qui dit la darara wa la dirar. Ni on fait de mal, ni on ne subit du mal. Et parmi donc tout mal, tout musulman ne doit pas faire de mal et ne doit pas subir de mal. Il doit être préservé du mal qu'il pourrait subir. Parmi ce genre de vente illicite qui fait du mal, il y a al-najash. Al-najash, c'est le fait que les gens font du surplus, de la surenchère, sans vouloir acheter réellement cette chose qui est vendue. Par exemple, des commerçants dans un marché, ils se mettent d'accord. Aujourd'hui, vous, tous les commerçants, vous venez chez moi. Chacun se met autour de sa marchandise. L'autre dit, moi je t'en donne 10. L'autre dit, moi je t'en donne 20. Moi je t'en donne 30. Tout ça pour faire un piège à l'acheteur qui va venir pour l'acheter au-dessus de son prix. Et le lendemain, ils vont chez l'autre commerçant et l'autre commerçant. Regardez donc la précision de l'islam. Même dans ce genre d'interaction, l'islam est venu interdire cette vente et à considérer cette vente comme illicite. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a même donné une nourriture. Il a clairement défini des choses qui sont interdites. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Maïda, dans le sens des versets, vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen des flèches, car cela est perversité. Donc, tout ceci, toutes ces sortes de bêtes qui sont mortes de ces manières-là, Allah Ta'ala nous les a interdites. Quand il nous les a interdites, il a interdit aussi de les vendre et d'en manger son usufruit, c'est-à-dire ce qu'on en gagne. De même, la graisse. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith véridique, authentique, que Allah ta'ala a maudit les juifs, car il leur avait interdit la bête morte, ils en ont vendu la graisse et mangé son usufruit, c'est-à-dire ce que ça donne comme gain. De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit donc l'alcool et la vente d'alcool et son usufruit, sauf si un nabid, c'est quoi? C'est, on va dire, c'est du jus. C'est du jus qui se fait à travers les fruits. C'est-à-dire, il y a un fruit qu'on met avec de l'eau, on le laisse du matin jusqu'à midi, ça se mélange ensemble, ça fait comme un peu du jus qui se fermente. Si on le boit tôt, ça va, c'est halal. Ça n'a pas été fermenté jusqu'au point de devenir de l'alcool. Mais si on le laisse plus longtemps, un jour, deux jours, cela devient de l'alcool. Et ça, c'est interdit de le consommer ou de le vendre. Donc toutes ces interactions-là, tous ces contrats-là, de même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'usufruit du chien. De même, que ce soit de le donner ou de le prendre, c'est-à-dire la valeur. On ne paye pas pour acheter un chien et on n'accepte pas, on ne prend pas de l'argent pour vendre un chien. Donc chaque personne qui doit commercer, qui doit agir, il doit connaître le licite et l'illicite pour pouvoir le mettre en pratique. De même, parmi les nourritures illicites, il y a le sang qui coule, qui gicle. Comme Allah tabaraka ta'ala a dit dans le verset de Maïda qu'on a lu tout à l'heure. Et ça, ce n'est pas le sang qui reste sur la viande ou dans les veines. Ça, c'est le sang qui coule, qui gicle des veines ou de l'aorte, ou bien plutôt des veines jugulaires quand la bête est égorgée. Et d'ailleurs, ce sang-là, maintenant ils ont trouvé qu'il y a des microbes dedans et manger cela, ça durcit le cœur. S'il reste de un peu de sang après qu'il ait giclé, après qu'il s'est fait sacrifier, après que la bête s'est fait sacrifier et que le sang est sorti, il reste un peu de sang dans les veines, dans le corps ou sur la viande, alors ceci, il n'y a pas de mal. Si on le lave, c'est bien. Si on ne le lave pas, il n'y a pas de mal. Aïcha radiallahu anha a dit qu'elle cuisait donc la viande et les traits et les traces du sang, elles étaient sur les rebords de la marmite. C'est-à-dire, c'est le sang qui restait dans les veines. Donc ça, il n'y a pas de mal. Ce qui est interdit, c'est le sang qui gicle, le sang qui coule, qui gicle du corps de cet être vivant. De même, ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, tout ce qui est sacrifié pour autre qu'Allah, que ce soit sacrifié sous ordre d'un sorcier, pour un djinn, ou pour un saint, ou pour une tombe, pour un mausolée, pour une divinité adorée en dehors d'Allah, quoi que ce soit, tout ce qui est sacrifié en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, même si cela fait partie à la base des choses qui sont licites à manger, comme le veau, ou comme les bœufs, ou comme les ovins, ou les bovins, ou les chameaux, ou les quoi que ce soit. De même, il y a des choses qui sont illicites en elles-mêmes, et d'autres qui sont licites à la base si elles sont sacrifiées comme il faut. Comme par exemple le porc, c'est illicite en lui-même, qu'il soit sacrifié ou non. Par contre, les ovins, les bovins, etc., c'est licite seulement si c'est sacrifié de la manière demandée et légiférée. Car Allah tabaraka wa ta'ala a interdit aussi les bêtes étouffées. Si on étouffe une bête s'étouffe et meurt, cette bête, elle est illicite. Sauf si elle est en train de s'étouffer et elle est sacrifiée avant de mourir. Et elle est égorgée avant de mourir. De même, celle qui est frappée, c'est la bête qui est frappée avec un bâton ou avec une pierre jusqu'à ce qu'elle meure. C'est une bête illicite, c'est-à-dire qu'on la tue avec des coups ou avec quoi que ce soit d'autre, autre que le sacrifice légiféré. De même, la bête qui est tombée d'une falaise et qui est morte. De même, la bête qui est morte après avoir reçu des coups de corne. Ou la bête croquée par des bêtes féroces, par une bête féroce. Sauf si tout cela, bien sûr, tout cela, toutes ces bêtes-là, que ce soit étouffées, frappées, tombées de haut, qui a reçu un coup de corne, ou croquées par une bête féroce, si elles ont été trouvées avant de mourir, et égorgées avant de mourir, et que le sang a coulé avant de mourir, alors ceci est halal. Et aussi, Allah tabaraka wa ta'ala a interdit de manger les bêtes qui ont été sacrifiées sur des pierres dressées. Avant, ils sacrifiaient les bêtes sur des pierres dressées pour leurs idoles. Ceci aussi donc est interdit. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on se renseigne. Et Allah, si on ne sait pas, on demande aux gens de science, car Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun ». Demandez donc aux gens du rappel, c'est-à-dire aux savants, si vous ne savez pas. Parmi les choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit, il a interdit de manger kullu dhinabin min as-siba' wa kullu dhi makhlabin min at-tayr. Tous les animaux féroces qui chassent avec leurs incisives et tout qui chasse et qui avec leurs incisives et tous les animaux, tous les oiseaux féroces qui chassent avec leurs griffes, par exemple les aigles, etc. Et les animaux féroces qui chassent avec leurs incisives et qui mangent avec. Nous aussi, il a dit, il y a plein de choses qu'il y a tout le monde, tout ce qui a des dents, des incisives. Mais là, c'est spécifiquement ceux qui chassent leur nourriture avec cela et qui les mangent avec, comme les loups, comme les lions, les tigres, les singes, tout cela, ça entre dans kullu dhinabin min as-siba'. De même, kullu dhi makhlabin min at-tayr, tous les carnassiers, je crois en français ça se dit carnassier, c'est les oiseaux carnassiers, c'est-à-dire qui chassent avec leurs griffes et qui les ramassent, barakallahu fikoum. Par contre, si par exemple un pigeon avec son bec il mange par exemple des insectes ou il mange des vers ou etc. Ça ne rentre pas dedans. C'est halal inshallah, bien sûr, si c'est sacrifié. De même, beaucoup de gens voient, bon ici en France peut-être c'est pas très répandu, mais Cheikh il a parlé de ça pour l'Angleterre. D'ailleurs il a donné un exemple à cela. Facilite beaucoup le fait de s'approcher des alcools, de l'alcool. Et certaines paroles de certains madahib, de certaines écoles juridiques, peuvent faire tomber les gens dans cette erreur. D'ailleurs, l'imam Malik, rahimahullah, disait souvent, alors qu'il était assis dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en train d'enseigner, il dit, de toute personne, on accepte les paroles ou on les refuse, sauf celui qui est dans cette tombe, il a montré le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a donc une parole qui est octroyé ou qui est donné, le cheikh a dit, je n'ai pas trouvé vraiment une chose certaine que c'est Abu Hanifa qui ait dit cela, mais ils disent, ils octroient cette parole à Abu Hanifa, qu'il aurait autorisé de boire les boissons alcoolisées autres que celles qui sont fabriquées à base du raisin, à condition d'en boire peu, c'est-à-dire moins que ce qui rend sous. Si par exemple on boit 200 millilitres, ça rend sous. Pour lui, boire des boissons alcoolisées, ou pour ce madhab plutôt, cette école juridique, boire des boissons alcoolisées moins de 200 millilitres et autres que celles qui sont fabriquées du raisin, c'est permis. Celles fabriquées des dattes, celles fabriquées de comme la bière, celles fabriquées de sha'ir, comment ? Voilà, des prunes, le quoi que ce soit autre que les... C'est pas chahir, c'est pas les prunes. Le blé, les prunes, quoi que ce soit. Toute chose autre que le raisin, tant qu'il en boit moins que la limite pour être sous, ce n'est pas illicite. Il dit ça, c'est une parole qui est clairement contre la religion, contre la parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et cette parole, quand elle s'est répandue à l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal, ça l'a poussé à faire carrément un livre, Al-Ashriba, les boissons. Et il a réuni dans ses livres tous les hadiths qu'il parle de l'interdiction de tout alcool, toute boisson alcoolisée, peu ou beaucoup. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit dans plusieurs hadiths, « Kullu muskil khamr » Toute chose enivrante, c'est du khamr. Et il a dit, « Ceux que sont beaucoup rendent sous, sont peu, est illicite. » Donc comment on peut délaisser la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est claire, plusieurs hadiths, clairs et nets, certains, et on prend la parole d'une personne, on n'est même pas sûr et certain qu'il a dit cette parole, de toute façon, même s'il l'avait dite, on peut délaisser les paroles de qui on veut, sauf les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, moi j'ai vu, peut-être vous, vous avez été en Angleterre, donc c'est pour ça que j'ai dit, il parle de l'Angleterre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le madhhab Hanafi. Il y a une rue là-bas, j'ai vu écrit en grand, en arabe, Ahmed. C'est un vendeur d'alcool. C'est un des plus grands fabricants d'alcool d'Angleterre. Et c'est lui qui dépense pour les mosquées avec cet argent haram. Et il dit, les imams et leurs savants de ces madahib, ils acceptent cet argent. Et ils savent qui il est. Ils savent qui il est. Est-ce que ces gens, ils n'ont pas peur de subir la colère d'Allah et la mise en garde dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent bien garde ceux qui controversent à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne soient pas touchés par une fitna, par une tentation, qui est le shirk. La tentation ici, c'est le shirk, là c'est le politisme. Ou yusibahum adabun alim, ou qu'ils soient touchés par un châtiment douloureux. Donc la personne, au début, il néglige, il se laisse aller à faire le haram, à désobéir, à contrevenir à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, il est sous la mise en garde de tomber dans le polythéisme. D'ailleurs, la personne qui boit de l'alcool, comme il a été rapporté, pendant 40 nuits, sa salat, elle n'est pas acceptée. Pendant 40 nuits, sa salat, elle n'est pas acceptée. Et même ça, c'est quand c'est clair. Tout ça, c'est clair, tout ce qu'on a dit. Et s'il y avait même le moindre doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le licite est clair. Et l'illicite est clair. Et entre les deux, il y a des choses équivoques. Celui qui a délaissé les choses équivoques, qui s'est éloigné des choses équivoques, فَقَدْ اسْتَبْرَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Il a préservé sa religion et son honneur. Et celui qui a été dans les choses équivoques, فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Il est clair, bel et bien tombé dans l'illicite. Il y a une question, hier on m'a posé une question concernant la viande halal. Et la base dans cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les nourritures de ceux qui ont reçu le livre avant vous sont licites pour vous. Que veut dire les nourritures? Comme ça a été rapporté dans le Bukhari, Ibn Abbas a dit les bêtes sacrifiées. Les bêtes sacrifiées qui ont été égorgées. Il faut savoir que pour que cette nourriture, cette viande, parmi les viandes qui sont licites à la base à égorger, bien sûr, elle soit licite, premièrement, la personne qui sacrifie doit être ou un musulman, ou un juif, ou un chrétien. Deuxièmement, c'est que la manière dont elle est sacrifiée doit être de la même manière qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que les veines jugulaires et l'aorte doivent être tranchées. Et comme il est venu dans le hadith, qu'il sacrifiait en disant « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » comme a dit le cheikh. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et il a interdit de manger de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été énoncé, ou bien ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah. Donc si, même si dans certains madahib, ils disent, dans certaines écoles juridiques, qu'un chrétien ou un juif, il dit au nom de Udayr, au nom de Jésus, certains ils ont dit que c'était halal, il a dit ça c'est faux, car le Coran lui répond, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Et ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah, il l'a interdit, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est clairement ça, c'est sacrifié pour autre qu'Allah. De même qu'une bête qui a été assommée ou droguée ou électrocutée et qui meurt par cela, alors elle est illicite à manger. Sauf si elle a été droguée faiblement et elle n'est pas morte. Elle est juste endormie et sacrifiée avant de mourir, dans ce cas-là c'est halal. La question aujourd'hui, c'est est-ce que réellement les gens ici sont des gens du livre, premièrement. Il a dit, il a été rapporté par plusieurs statistiques ou sondages, Allah ybarak fik, des sondages et des statistiques. Et même hier, le cheikh il a énoncé que cheikh Taqiyuddin Hilal il a envoyé une lettre à 60 ambassades pour avoir leur réponse de comment elle est la pratique ou la croyance dans leur pays. Et il a dit, certains d'entre eux, ou une grande partie d'entre eux, il dit que je sois maudit si je crois en quelque chose. Et donc, le fait de dire que c'est des gens du livre, déjà, c'est au moins il y a un grand doute dessus. Car eux-mêmes, ils ne le disent pas. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, quelqu'un dit je suis musulman, mais qui fait de l'associationnisme, du polythéisme, il se prosterne pour les tombes, du polythéisme majeur, et après il sacrifie une bête, on a le droit de la manger cette bête? Non. Pourtant, il se dit musulman, même pas juif ou chrétien. Mais les savants disent que non, parce que c'est un mouchrik, c'est un polythéiste, sa viande est illicite. Du coup, alors comment si ce sont des gens qui sont même pas, ils se reconnaissent même pas étant des gens du livre. C'est-à-dire, on va les rendre des gens du livre de force. Il dit, certains ils disent, non, ce n'est pas permis de demander, on ne doit pas demander. Il dit, si, tu dois demander. Car tu dois demander, maintenant que tu as la certitude que tu es dans un pays où il y a des croyants et des non-croyants, il y a des juifs, des chrétiens, des mécréants, des bouddhistes, des associateurs, des musulmans, des laïcs, des gens de toute confession, de toute croyance. Donc tu n'es pas dans un pays où c'est que des gens du livre, où c'est des gens du livre en grande majorité et des musulmans. Donc tu dois demander déjà, savoir qui sacrifie. Après cela, comment ils sacrifient? Est-ce qu'ils sacrifient selon ce que l'islam a autorisé? Et il faut savoir que si on a ne serait-ce que le moindre doute dans cela, quelque chose d'illicite mélangé au licite, ça rend tout illicite. Ça rend le tout illicite. Et il y a des fatawas anciennement et contemporainement des savants clairs sur cela. Même on a lu des dernières fatawas des ulama sur certains qui vivaient dans les pays non musulmans, qui leur demandaient, on en a assez de manger du poulet, c'est-à-dire ils sacrifiaient que des poulets. Ils disaient, on en a assez de manger des poulets, est-ce qu'on peut manger leur viande? Alors les savants leur ont répondu, en avoir assez, c'est pas une raison suffisante pour manger la viande haram, la viande illicite. Et d'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement, le licite est clair et l'illicite est clair, et entre les deux, il y a des choses équivoques, comme on a cité le hadith tout à l'heure. Donc, s'il y avait ne serait-ce que le moindre doute, déjà, il faudrait délaisser pour préserver sa religion et son honneur. Alors que là, il y a plus que le moindre doute, déjà, sur le fait qu'ils soient des gens du livre ou non, sur le fait qu'ils utilisent un ustensile tranchant pour trancher les veines jugulaires et l'aorte, sur le fait qu'ils énoncent le nom d'Allah ou non, donc tout cela pour que ce soit, donc wallahu, il a dit wallahu a'lam, il est clair qu'on ne doit pas manger de cette viande-là. Alors il a dit, si vous pouvez vous mettre à plusieurs et sacrifier une bête, il ne sait pas qu'on a des associations de contrôle, des abattoirs. Donc voilà, il n'y a pas de mal. Donc ça, c'est même si on n'avait pas des boucheries halal, etc. Il dit, vous devez vous mettre à plusieurs et sacrifier ensemble et vous partager. Donc, qu'est-ce qu'on va dire si on a les boucheries halal, etc. Donc, le cheikh a dit, pour finir ce sujet, il faut savoir que Allah tabaraka ta'ala nous a autorisé de dresser des chiens de chasse et de les envoyer en nommant le nom d'Allah, en énonçant le nom d'Allah, et de manger de la bête qu'il a chassée, si c'est une bête licite à manger. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari a dit clairement que si tu as envoyé ton chien, donc les deux conditions pour manger d'un chien, c'est que ce soit un chien dressé pour la chasse. Et deuxième condition, c'est que le nom d'Allah soit énoncé au moment de l'envoyer. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih al-Bukhari que si un autre chien a été chassé cette bête, cet animal, et tu ne sais pas est-ce que c'est ton chien ou l'autre chien qui l'a tué, il y a un doute. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne mange pas. Donc dans le doute, quand il y a un doute dans les viandes, dans tout ce qui est le houm, tout ce qui est les viandes, l'asl, la base, c'est de dire que c'est haram. De revenir le doute, il fait que c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Pourtant, il y a le doute, est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit halal? Il a envoyé son chien dressé et il a dit bismillah. Un deuxième hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu tires avec ta flèche en nommant le nom d'Allah et que tu as perdu ta proie, et tu la retrouves. Et sur elle, il n'y a aucune autre trace à part la trace de ta flèche. Tu manges. Si par contre, tu trouves une autre trace, une griffe, une morsure, un venin, quoi que ce soit, alors tu ne manges pas. À cause du doute, c'est devenu haram. C'est devenu illicite. De même, si tu as lancé ta flèche en nom d'Allah, et tu as trouvé la bête noyée dans de l'eau, tu ne manges pas, car tu ne sais pas si elle est morte par la cause de ta flèche, ou si elle est morte par la cause de la noyade. Regardez donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé dans le cas du doute que c'est illicite. Et c'est ça la base de nos règles dans Sharia, c'est quand il y a un doute sur la nourriture, sur l'eau,